France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une coproduction des médias francophones publics.
La Havane en révolution. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accompagner dans ce nouvel épisode très mouvementé de Carrefour des Amériques. On est en 1957. À Cuba, l'immense majorité de la population espère la chute prochaine du dictateur Batista et la Havane tente de garder le rythme effréné qui a toujours été le sien. La vie musicale parvient encore à réunir un large public, en particulier lors des concerts prestigieux de Pro Arte Musical. Les récitals de la mezzo-américaine Jean Madeira, de la soprano espagnole Victoria de Los Angeles et du ténor canadien Léopold Simoneau en novembre font le plein. Simoneau arrive en grande star du lyrique après ses succès au festival de Glyndebourne, à l'opéra de Vienne dans Les Pêcheurs de Perles de Bizet et à l'opéra de Chicago dans La Traviata aux côtés de Maria Callas. Quand on l'écoute dans l'air des Pêcheurs de Perles, et même si l'action de l'opéra se passe assez lent, on se prend à rêver immédiatement à Cuba. Je crois entendre encore, cachée sous les palmiers, ta voix douce et sonore. C'est la voix de Léopold Simoneau dans une Havane pré-révolutionnaire.
Oh.
Léopold Simonneau avec l'orchestre Lamoureux dirigé par Jean Fournet dans son air fétiche, l'air de Nadir des pêcheurs de perles de Georges Bizet. En 1958, le général Batista lance une offensive contre les rebelles dans la Sierra Maestra à l'est du pays. Mais les photos des militaires cubains bombardant leur propre population sont dévastatrices pour Batista, qui n'a plus aucun appui populaire. Même les États-Unis tentent en vain de le faire démissionner. Et son armée est totalement démotivée. La guerre de guérilla sera très courte. En décembre, l'armée rebelle assiège Santiago de Cuba, la ville de Santa Clara au centre du pays, et se dirige vers La Havane. Les derniers mois de 1958, c'est un futur ambassadeur de la Révolution qui fait parler de lui, le guitariste Leo Brauer, petit-fils de la sœur aînée du compositeur Ernesto Lecuona. Il compose des danses concertantes pour guitare et orchestre qui laissent augurer d'un talent exceptionnel. Leo Brauer a tout juste 19 ans et comme tous les jeunes de son âge, il attend fiévreusement l'arrivée de l'armée rebelle à La Havane. Alvaro Pietri, guitare, l'ensemble Amati de Montréal, dirigé par Raymond Dessin dans l'Allegro des trois danses concertantes de Leo Brauer. En mars 1958, le système de télévision en couleur est définitivement mis au point à La Havane. Et partout à Cuba, dès 1959, on peut capter la télévision. Mais après le triomphe de la Révolution, le petit écran sera de nouveau en noir et blanc jusqu'en 1975. La chanteuse espagnole Lola Flores, lors de son dernier séjour à La Havane en 1956, s'était amusée de voir les voisins envahir les maisons où il y avait un téléviseur. Et elle avait chanté dans les radios havanaises avec beaucoup d'humour, de rumba et de flamenco, la passion des Cubains pour la télévision.
Ay, me tocó un televisor en la radio nacional, lo planté en el comedor, en el sitio principal, y al momento empezaron las carreras. Ay, sube que baja, baja, que sube las escaleras, y la vecindad, y llega la Inés, ay, ay, con sus dos pellizos, ay, que son de cama, de caballería, y Pepe el Gordo mascando chicle, que porquería, para después pegarlo tranquilamente sobre el sofá.
Y esta mi casa que es un horror, desde que tengo un televisor. ¡Sí! ¡El televisor!
¡No se tiene otro!
¡El televisor!
¡No hay por dos
cuartos! ¡El televisor!
¡Ay, por Dios, vecina!
¡El televisor!
¡Esto es la ruina!
¡El televisor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El televisor!
Solo sube Josefina, la de Don Paco.
¡Hala!
Y televisan una corrida por el chamaco.
Sí.
Y empieza el terror. Pues sube Leonor, ay, ay, Carlitri Venera, ay, Doña Flora, que es ordoñista, forman junta tan pelotera, Dios nos asista, que hasta se caen todos los cuadros del comedor.
Ay, esta mi casa que es un horror, desde que tengo el televisor.
¡Sí, ay!
¡El televisor!
¡Ya se tiene otro!
¡El televisor!
¡Por los cuartos!
¡El televisor!
¡Ay, por Dios, vecina!
¡El televisor!
¡Esto es la ruina!
¡El televisor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El televisor!
El programa no la agrada y no es bonito. Entra todo el mundo, le entra de pronto tal apetito. ¿Qué quieren comer? pidiendo pollo, hay con mayonesa. Los niñatos echan la salsa por la cabeza y hasta se meten por las narices el tenedor.
Y esta mi casa que es un horror, desde que tengo el televisor.
¡Sí!
¡El televisor!
¡Ya se quiere dar!
¡El televisor!
¡Lo tengo dos cuartos!
¡El televisor!
¡Ay, por Dios, vecina!
¡El televisor! ¡Esto es la ruina! ¡El televisor! ¡Ay, ay, ay, ay!
Lola Flores, enregistrée ici à La Havane en 1956. En cette fin d'année 1958, le compositeur cubain Julián Orbón entreprend la composition d'une nouvelle œuvre qui est une commande de la Fondation Koussevitzky, un concerto grosso pour quatuor à cordes et orchestre qui est créé avec succès au Carnegie Hall de New York en 1961. Une œuvre où il réunit à la fois un certain ascétisme qu'il aimait chez Manuel de Falla et l'exubérance symphonique américaine héritée de son maître Aaron Copland aux États-Unis. À la fin de l'année 1958, Julián Orbón est bien décidé à retourner à Cuba pour fêter la révolution qui gagne du terrain. Dans son concerto à l'énergie dramatique de l'orchestre, répond la lumière sereine du quatuor à cordes. Le premier mouvement du concerto grosso pour quatuor à cordes et orchestre de Julián Orbón, Eduardo Mata dirigeait ici le Cuarteto Latinoamericano et l'orchestre Simón Bolívar de Caracas. Le 23 mars 1958, Cuba est fier d'inaugurer le nouvel hôtel Hilton que la presse annonce comme le plus grand hôtel d'Amérique latine. C'est là que sont installés d'ailleurs les studios de la télévision en couleur. Sa façade à l'entrée est ornée d'une superbe mosaïque murale de la peintre Amelia Pélaez. Et au salon des ambassadeurs, des concerts sont organisés. Au mois de mai, c'est Jorge Bolet qui en est l'invité d'honneur. Quant au pianiste et chef d'orchestre René Touzet, il dirige depuis un an la 6e chaîne de la télévision cubaine. Il vient d'enregistrer un disque avec Olga Guillot, la grande star du boléro. Leur rencontre a été un vrai coup de foudre. René Touzet compose pour elle une chanson dont l'interprétation par Olga Guillot connaît une vogue inouïe dans toute l'Amérique latine. La noche de anoche. Depuis la nuit dernière, je vis bouleversé à cause de ce que je ressens pour toi. Je sais que c'est toi que j'attendais. Durant l'été 1958, Olga Guillot entame une tournée en Europe et donne un concert en France avec Edith Piaf au casino du Palm Beach à Cannes.
La noche de anoche, que noche la de anoche,
la noche de anoche.
Tantas cosas de momento sucedieron que me confundieron. Estoy aturdida. Yo que estaba tan tranquila, disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Haciendo de mí, yo estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche
de anoche,
revelación maravillosa que me hace comprender que yo he vivido esperando por ti.
Hace momentos sucedieron que me confundieron.
Disfrutando de esa calma que nos deja un amor que ya pasó. Estoy sintiendo lo que nunca sentí. Es muy profundo mi deseo de ti. Te lo juro, todo es nuevo para mí. La noche de anoche, revelación maravillosa que me ha comprender que yo he vivido esperando por ti.
On a du mal à imaginer le succès incroyable que rencontrait Olga Guillot. Il faut dire que la voix est assez extraordinaire. En 1958, on entend parler à nouveau à Cuba du compositeur Carlos Borboya. Il a alors 55 ans. L'écrivain Alejo Carpentier l'avait vraiment découvert en 1944. Depuis 8 ans, Borboya avait quitté l'entreprise familiale de construction d'orgues mécaniques à Manzanillo, au sud-est du pays, pour s'établir avec sa famille au Cotorro, dans les faubourgs de La Havane. Il est nommé professeur de musique cubaine au Conservatoire international et son enseignement est basé sur la musique populaire et notamment sur ses rythmicas pour piano. Et puis ses œuvres sont enfin jouées en concert à La Havane. La danse numéro 4 de Carlos Borboya, Ulises Hernández au piano. Carlos Borboya était un homme profondément indépendant et solitaire, voire libertaire. Après la Révolution, il refusera toute allégeance au nouveau régime politique. Il paiera au prix fort cette indépendance inébranlable. Il sera ostracisé de manière impitoyable. Ses œuvres seront interdites de facto dans les concerts jusqu'à sa mort en 1990. En 1996, le compositeur Roberto Valera nous en parle, comme s'il s'agissait d'un fantôme dont on osait à peine parler.
Carlos Borboya lo conocía.
Carlos Borboya, je le connaissais.
Por algunas obras de piano.
Par quelques œuvres de piano.
Mismo nunca las toqué.
Moi, je n'en ai jamais joué.
Algunos estudiantes en el conservatorio tocaban alguna obra de Carlos Borboya.
Quelques étudiants au conservatoire en ont travaillé.
Era un compositor un poco.
C'était un compositeur.
Un poco misterioso. Era
pour nous assez mystérieux.
Que no se tocaba mucho. Sabíamos que existía.
On savait qu'il existait.
Del valor de su música,
tout le monde nous parlait de la valeur et de l'importance de sa musique.
Pero no se había tocado mucho. Y creo que
mais
aún,
on ne le programmait pratiquement jamais.
No se ha tocado todo lo que
encore aujourd'hui, on ne l'a pas joué comme son œuvre le mériterait.
Que su obra ha influido
et je sais pourtant
en músicos posteriores.
Que sa musique a influencé nombre de musiciens.
Thank you.
En 1958, Carlos Borboya avait composé sa seule œuvre pour orchestre, des danses de sa chère ville de Manzanillo. La Camerata Romeo interprétait ici la première de ces danses. À La Havane, la vie musicale continue brillamment. Les deux concerts de l'orchestre de Philadelphie, dirigés par Eugène Ormandie, font salle comble en janvier 1958. Depuis un an déjà, c'est Igor Markevitch qui est le chef attitré de l'orchestre philharmonique de La Havane. Son adjoint, Alberto Bolet, invite pour la première fois à Cuba la pianiste espagnole Alicia de la Rocha qui fait sensation. Markevitch dirige son dernier concert le 23 mars 1958. L'orchestre philharmonique joue pour la dernière fois le 13 avril. Il est dissous en février 1959. Cette année-là, Julian Orbon habite à New York le même immeuble que le claveciniste Rafael Puyana et le guitariste Andrés Segovia. Segovia dirige alors le festival de Saint-Jacques de Compostelle et commande une œuvre d'inspiration espagnole à Julian Orbon. Le compositeur cubain met alors en musique, pour soprano, clavecin et ensemble instrumental, trois cantigas du roi Alphonse le Sage, qui régnait en Espagne au XIIIe siècle. Julian Orbon dédie ses cantigas à Rafael Puyana, qui les crée à Santiago de Compostela.
Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Thank you.
Tres cantigas del rey de Julián Orbón, Raphaël Pouyanna au clavecin, la soprano anglaise Heather Harper et les solistes de l'Orchestre Philharmonique de Londres, placés sous la direction d'Antal Dorati. En décembre 1958, l'armée cubaine est définitivement battue par la guérilla. Batista, ses sbires et ses mafieux prennent la fuite la nuit du 31 décembre. Fidel Castro et les Barbudos entrent à La Havane en janvier 1959. La danseuse Alicia Alonso, après ses triomphes à Buenos Aires et à New York, revient aussitôt fêter la révolution triomphante. Elle réorganise son ballet, qui devient le Ballet National de Cuba, et le gouvernement décide d'en faire l'ambassadeur de la révolution cubaine dans le monde entier. En février 1960, Alicia Alonso crée le premier festival international de danse de La Havane. Elle chorégraphie un nouveau ballet qui est censé raconter la geste révolutionnaire. La musique est du compositeur Carlos Fariñas qui avait intégré l'armée rebelle, mais Fariñas a reconnu des années plus tard l'échec de ce spectacle un tantinet grandiloquent. Par contre, un ballet cubain créé à New York au Lincoln Center va connaître lui un grand succès. En 1959, Georges Balanchine, Lincoln Kirstein et le compositeur mexicain Carlos Chavez imaginent un grand spectacle latino-américain, la Panamericana. Une série de 8 ballets sur des musiques de compositeurs d'Amérique latine, dont Ginastera, Aitor Villalobos et Julián Orbón. Balanchine en chorégraphie 3, dont les danses symphoniques de Julián Orbón. Et la première a lieu avec succès, le 20 janvier 1960, au Lincoln Center de New York. Julián Orbón avait suivi passionnément la victoire de la révolution cubaine. Il rentre aussi au pays, mais au milieu de la liesse générale, il pressent une radicalisation extrême du régime. Et en novembre 1960, quand Carlos Chavez l'invite à diriger un atelier de composition au Conservatoire National de Mexico, il en profite pour quitter définitivement Cuba avec sa famille. Thank you. Maximiliano Valdés à la tête de l'Orchestre Symphonique des Asturies dans la danse finale des danses symphoniques de Julián Orbón. Ce qui paraît incroyable à la Havane, malgré les tumultes et les soubresauts révolutionnaires, c'est que les récitals de musique classique reprennent au Théâtre Auditorium en 1960 et en 1961. N'oublions pas que la Révolution a déclenché une euphorie sans précédent et la vie culturelle en bénéficie encore. La Société Pro Arte Musicale accueille les violonistes Eugenis Domine et Ivry Gitlis, les chanteuses Giulietta Simeonato et Elisabeth Schwarzkopf, qui revient, elle, pour la quatrième et dernière fois. Le théâtre Auditorium est toujours aussi plein. Et puis, encore plus incroyable, il y a la dernière grande saison d'opéra en mars 1959. Adriana Lecouvreur de Chilea est créée avec Renata Tebaldi, qui chante aussi André Chénier de Giordano, Manon Lescaut et la Bohème de Puccini. Les salles sont combles, Renata Tebaldi fait des triomphes inouïs. Mais dès la fin de l'année 1959, l'austérité se fait déjà sentir. Il n'y a quasiment plus de publicité culturelle dans les journaux, la liste des spectacles diminue, la Société Pro Arte est dépossédée de son théâtre à Auditorium. Les femmes qui la dirigent sont expulsées manu militari. Le théâtre est nationalisé en 1960. Pro Arte poursuit alors ses activités K1-KA au Lycéum ou au théâtre Hubert des Blancs avant sa dissolution en 1967. L'orchestre philharmonique devient l'Orchestre National de Cuba. Son premier grand succès populaire a lieu en 1961 lors de la création du ballet intégral de la Rebambaramba, composé en 1928 par Amadeo Roldán dans une superbe chorégraphie du jeune Ramiro Guerra. Le livret du romancier Alejo Carpentier, qui est revenu lui aussi au pays, évoque la fête des rois au XIXe siècle, quand les Noirs étaient autorisés à danser dans les rues. On écoute l'épisode rituel afro-cubain, rituel millénaire, ésotérique et magique, celui de la mort de la couleuvre. La couleuvre est morte, la culebra se murió.
Ah!
Le chœur et l'orchestre national de Cuba dirigé par Gonzalo Romeo dans ses extraits de la Rebambaramba de Amadeo Roldán. La Rebambaramba, lit-on dans le magnifique supplément culturel Les Lundis du quotidien La Révolution, c'est une sorte de Petrushka cubain, avec sur scène le peuple et ses rituels. Une musique qui évoque aussi cette période d'enthousiasme révolutionnaire durant laquelle, et on l'a oublié, les classes moyennes et de nombreux secteurs de la haute bourgeoisie cubaine ont apporté leur aide économique à la révolution. Comme l'écrit en 1994 Luis Aguilar León, qui a été membre de l'Institut révolutionnaire de la culture à ses débuts, dans sa majorité, la population n'avait pas participé à la lutte. Il y avait eu peu de sang versé. Les dégâts matériels étaient minimes. Le héros qui descendait des montagnes avait repris dans ses propos toutes les promesses qui avaient ému le peuple pendant des décennies. Une démocratie honnête, la liberté pour tous, des élections immédiates, l'éradication de la pauvreté. Pour la majorité des Cubains, la révolution, c'était cela. Personne n'avait mentionné le marxisme-léninisme, ni les expropriations massives, ni les objectifs socialistes. L'enthousiasme était intact. Le final de la Rebambaramba d'Amadeo Roldán. Si l'enthousiasme pour la révolution était intact dans la population, beaucoup commencent à s'inquiéter des dérives du régime qui prend le pouvoir. En effet, le leader Máximo a rétabli la peine de mort dès 1959, annulant ainsi la constitution progressiste de 1940. Les arrestations se multiplient, les procès expéditifs, les exécutions en public dans le stade, dont certaines sont télévisées, entretiennent un climat de terreur. L'armée révolutionnaire est peu à peu décimée. Le leader Camilo Cienfuegos, très respecté par le peuple, disparaît mystérieusement lors d'un vol de nuit. Aucune enquête. Son compagnon, le populaire Huber Matos, est condamné à 20 ans de réclusion. Enfin, le 28 septembre 1960, les comités de défense de la révolution créés dans chaque quartier et dans chaque immeuble permettent un encadrement politique sans faille. Tout cela alors que la Havane s'étourdit plus que jamais dans la fête. Le journaliste Juan Arcocha, ardent révolutionnaire, se souvient de ses premières années de la Révolution. On dansait en conscience sur un baril de poudre, ce qui explique sans doute l'irrésistible et frénétique besoin de nous amuser, auquel nous cédions tous. Le rationnement n'avait pas encore été instauré. Dans les épiceries, il restait du whisky, de la bière. Chaque nuit, les bars et cabarets de la Havane étaient bondés. Jamais dans notre histoire, on avait autant chanté et autant dansé. Une époque où le rock'n'roll avait même supplanté le cha-cha-cha. Le grand succès, J'ai le diable au corps, chanté par la rockeuse la plus audacieuse et la plus géniale, la Loupée, qui pouvait encore défier le puritanisme révolutionnaire. Ha ha ha.
voz, me abraza la fiebre de tu amor. Hoy me atormenta el consuelo, me abraza la fiebre con ardor. Este delirio por ti me consume, me fatiga y emborracha a la vez. De querer es infierno o es gloria, no lo sé. Ay, hoy tengo el diablo en el cuerpo, locura de verte, delirio de amarte, deseo constante de ti, lujuria de besos sin fin. Hoy tengo el diablo, sí, tengo el diablo.
Reine incontestée du rock'n'roll à La Havane, La Loupée est encensée par le supplément culturel Les Lundis de Révolution contre l'avis du gouvernement qui l'a contrainte à l'exil pour atteinte à la pudeur et conduite antisociale. En 1960, une première délégation culturelle soviétique arrive à La Havane avec le violoncelliste Mstislav Rostropovitch qui visite le pays et joue avec l'Orchestre Symphonique National. Les festivals de films soviétiques se succèdent dans tous les cinémas de la ville. Le 27 janvier, Aram Khachaturian vient diriger ses œuvres, puis ce sont des concerts avec Leonid Kogan. Durant des décennies, les mélomanes cubains auront ainsi l'occasion d'entendre les artistes que l'Union soviétique et les pays de l'Est enverront à Cuba. À La Havane, le compositeur Juan Blanco, qui a 40 ans lors du triomphe de la Révolution, est devenu directeur de la radio CMZ créée par l'armée et il s'est fabriqué un studio de musique électroacoustique très artisanal. Dans les premières années de la Révolution, les compositeurs dans leur ensemble n'échappent pas aux injonctions du pouvoir d'écrire des œuvres en hommage au communisme, aux martyrs de la Révolution, aux guérilleros héroïques. Et à la radio, Juan Blanco entend tout le temps la propagande, comme celle de Radio Progreso.
Radio Progreso, cadena nacional.
La onda de la alegría.
Transmitiendo desde La Habana, Cuba.
Primer territorio libre en América.
Cuba, premier territoire libre en Amérique. Que nos bras ne s'endorment jamais et que jamais ne s'arrêtent les moteurs, car notre nation n'a jamais connu autant d'amour. Et il y a aussi les feuilletons.
Radio Progreso Cadena Nacional presenta La Gran Aventura de la Humanidad.
El Partido y Lenin son hermanos gemelos. ¿Cuál es más precioso?
Quand on dit Lénine, on dit le parti.
Decimos Lenin, sobreentendemos partido.
Et quand on dit le parti, on dit Lénine.
Sobreentendemos Lenin.
Chispa brotó la llama, inspirada en el surgimiento del glorioso partido bolchevique de la Unión Soviética.
Alors qu'il n'a jamais adhéré au communisme castriste, Juan Blanco compose une cantate pour la paix et plus tard une œuvre dont il dira à la fin de sa vie que c'était pour tourner en dérision les discours interminables des gouvernants. Il en a assez de la propagande à la radio. Le titre de cette œuvre, Desde su voz amada, inspiré par sa voix bien-aimée, en l'occurrence la voix de Lénine, qu'il a mixée et remixée dans un fatras de son électronique, il était très fier de sa supercherie avec en sous-titre « Hommage à Lénine » que tout le monde a pris pour argent comptant. Qu'on fait à Cuba pour échapper à la propagande à l'époque? Eh ben, on va bien sûr dans un des rares cabarets encore ouverts. Par exemple, pour écouter une des voix du Cuarteto d'Aïda, qui avait commencé depuis plusieurs mois une carrière de soliste et qui était devenue célèbre du jour au lendemain. Elena Burke, une voix sensuelle, idéale pour les boléros, Brisa Tropical, brise tropicale de la Havane.
Sensual, noche tropical de mi Cuba, noche callada y con brisas que invita a soñar, noche para amar, con guitarra palmeras y la luna traicionera. Oye a lo lejos el suave como la brisa tropical, suave el cantar, suave el amar, suave el soñar, todo que suave como la brisa tropical. Resuenan ya los bongoes y laten de amor los corazones, porque el amor es tropical como la noche que se va, que se va, que se va. Suenan ya los bongoes y laten de amor los corazones, porque el amor es tropical como la noche que se va, que se va, que se va.
Et oui, l'amour est encore bien tropical dans la Havane des débuts de la Révolution. Et on va se quitter sur la belle voix d'Elena Burke avant de se retrouver dans le prochain Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Prutner et Claude Niort. Une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.